Appel sur l'actualité.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous avez la parole jusqu'à 9h temps universel sur RFI pour notre débat dans une demi-heure sur la levée partielle de l'embargo sur les armes en Libye. Cette décision vous inquiète-t-elle ou trouvez-vous normal que l'on donne au nouveau gouvernement d'Union nationale les moyens de combattre le terrorisme? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70 pour participer ou bien laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et Twitter de l'émission. Mais d'abord, nos experts et nos journalistes vont répondre à vos questions sur le procès de la cellule terroriste de Verviers en Belgique, sur la suspension de la Fédération béninoise de football, mais d'abord sur la prochaine visite de Barack Obama à Hiroshima, avec la question d'Issoufou qui nous appelle de Bamako. Bonjour Issoufou.
Bonjour Marie. Tout d'abord, permettez-moi de dire au monde entier que Gossi n'est pas de la région de Gao, comme cela avait été dit par le reporter RFI.
Issoufou, on va revenir à notre sujet. Vous nous appeliez, vous avez des questions sur la visite d'Obama à Hiroshima.
Si, j'aurais appris que Obama effectuera une visite à Hiroshima au Japon ce 27 mai. Et là-dessus, je voudrais savoir pourquoi Obama effectuera-t-il cette visite aujourd'hui, sachant qu'il est à la fin de son mandat. Et est-ce que Barack Obama s'est-il exprimé sur les bombardements d'Hiroshima?
Merci Issoufou pour vos questions. C'est Guy Bourg de la Motte, maître de conférence à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, qui va vous répondre. Bonjour Madame de la Motte.
Bonjour.
Alors c'est vrai que ce sera la première fois qu'un président américain va se rendre à Hiroshima, l'une des villes, bien sûr avec Nagasaki, à avoir été la cible de la bombe nucléaire américaine. Donc c'était les 6 et 9 août 1945. Alors effectivement, pourquoi maintenant, puisque le mandat de Barack Obama va se terminer en janvier, et l'idée avait déjà été évoquée d'ailleurs il y a 7 ans.
Absolument. Alors je crois qu'en fin de mandat, il y a différents types d'attitudes, mais je crois qu'un président cherche à marquer. Il a commencé son mandat en recevant le prix Nobel de la paix. Je crois qu'il n'y a pas eu de geste très symbolique qui ait été fait en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Il a essayé, ça n'a pas marché comme il l'avait espéré. Et puis là, il y a eu des avancées récemment. Et je crois que c'est l'orientation qu'il veut donner, enfin le souvenir qu'il veut laisser. En fait, on a vu des changements avec l'Iran. Puis peut-être ça c'était en lien avec la Syrie. Donc peut-être moins directement une marque de volonté de la part de M. Obama. Mais Cuba, c'est un changement important. Et puis je crois qu'Hiroshima s'inscrit dans cette lignée, dans cette idée qu'il faut tourner la page du passé, qu'il faut avoir une politique d'ouverture avec des symboles de réconciliation de cet ordre.
Mais alors si Barack Obama a attendu finalement 7 ans entre donc la première évocation de l'idée, finalement la concrétisation, c'est que le sujet est toujours aussi sensible?
Absolument, le sujet est sensible. C'est après la catastrophe de Fukushima en 2011, le gouvernement américain a envisagé à nouveau d'envoyer le président, mais c'est l'ambassadeur des États-Unis au Japon qui a été envoyé à la place. Et donc on voit bien à quel point c'est difficile pour un président de se rendre là-bas. Je crois qu'il peut le faire plus facilement maintenant qu'en effet il est en fin de mandat. Mais si vous voulez, le souvenir lié à la Deuxième Guerre mondiale, il est encore très très vivant malgré tout chez des personnes un peu âgées aux États-Unis. Les groupes de vétérans sont encore puissants. En 95 encore, il avait été question de faire une exposition sur l'avion qui avait lâché la bombe sur Hiroshima. Et à cette occasion, on avait un musée. Américain avait envisagé de mettre des photographies, etc., des témoignages de survivants d'Hiroshima. Et en fait, ils ont dû renoncer parce que les vétérans, en fait, ça les mécontentait, si vous voulez, parce qu'il y a l'argumentation qui s'est imposée aux États-Unis, c'est que Hiroshima et Nagasaki avaient été un mal nécessaire face à des Japonais qui étaient complètement endoctrinés et pour mettre un terme à une guerre qui sinon n'aurait jamais terminé.
Il y a un récent sondage qui dit que 56% des Américains sont toujours d'accord avec cette décision, qu'effectivement c'était un mal pour un bien. L'autre question de notre auditeur de Bamako, Bamako, c'était sur savoir si Barack Obama s'était déjà exprimé sur ces deux bombardements, ou finalement le 27 mai prochain, ce sera la première fois.
À ma connaissance, il l'a pas fait, non. Je pense pas qu'il l'ait fait. Je crois qu'en fait, l'idée là, c'est d'effectivement de faire un geste symbolique, mais de pas prêter le flanc ni à la critique, enfin le moins possible, et puis de pas ouvrir de polémique, en fait. Et surtout pas, en fait, l'idée, mais pas d'y aller pour faire des excuses. Mm. C'est pas ça. Ça, ce serait trop difficile, et ça susciterait trop d'opposition. Et du coup, en fait, ça amènerait à dire des choses qui pour le moment ne sont pas dites. C'est-à-dire que Hiroshima, c'était très bien, etc.
Parce que qu'est-ce qu'il pourrait dire justement? C'est assez sensible, on l'a dit, c'est quand même un exercice un peu d'équilibriste toujours.
Bah là, ce qu'il va faire, je pense, c'est parler du désarmement, de la lutte contre la prolifération. Et ça, ce sont des thèmes sur lesquels il s'est beaucoup exprimé, en particulier en 2010, en 2015, à l'occasion des conférences de réexamen du traité de non-prolifération. Mmh. Donc ça, c'est le désarmement, c'est un thème qui lui tient à cœur. Et puis, donc ça c'est certainement le biais qu'il va prendre. Et puis, voilà, faire un discours pour la paix, contre la guerre. Enfin, vous voyez, ça va être beaucoup plus... Ce type, voilà. Et ça alimente, ça, du côté japonais, du côté américain, en fait, ça nourrit aussi l'alliance nippo-américaine. Donc, ça s'inscrit dans cette logique d'amitié, voilà, de renforcement de l'amitié. Vous voyez, pas du tout de retour sur le passé, voilà.
Alors, vous parlez pas de retour sur le passé. En attendant, Tokyo pourrait aussi organiser une visite très symbolique, hein, à Pearl Harbor. Est-ce que c'est un échange de bons procédés? Chacun fait un pas vers l'autre?
Voilà, exactement. Ça, c'est typique. Si vous voulez, ça vous dit à quel point c'est malgré tout difficile pour un président américain d'aller à Hiroshima et Nagasaki. C'est qu'ils essayent d'obtenir une contrepartie. Ça s'inscrit dans une logique de réciprocité. C'est-à-dire, si l'un des deux fait un geste de bonne volonté sur des sujets si sensibles, eh bien l'autre, je ne sais pas d'où l'idée est venue. Hein, si c'est les Américains qui ont demandé, proposé, enfin, ça c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, effectivement, c'est de bonne politique. Du coup, ce serait de bonne politique de la part des Japonais de se rendre à Pearl Harbor. Et là, vous voyez, ça neutralise la mémoire des deux côtés.
Merci beaucoup, Guy Bourg-de-la-Motte, d'avoir répondu à notre auditeur de Bamako, donc Barack Obama, qui effectuera une visite donc historique à Hiroshima. Ce sera le 27 mai prochain, 8h17 en temps universel. On va accueillir un nouvel auditeur pour une nouvelle question. C'est Karim qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour, Karim.
Oui, bonjour, Marie.
On écoute votre question, Karim.
Ok, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Le procès de la cellule terroriste belge Verviers est ouvert la semaine dernière. Quel est le lien entre ce procès et les attentats du 13 novembre?
Alors, en plus, oui, on va d'abord répondre à cette première question, si vous voulez bien, Karim. C'est David Thompson, spécialiste du djihadisme à RFI, qui va vous répondre. Bonjour, David.
Bonjour.
Alors, on le rappelle, hein, donc il y a 6 personnes qui comparaissent depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Des personnes qui sont soupçonnées d'appartenir donc à cette cellule djihadiste dite de Verviers, hein, donc une ville belge. Une cellule démantelée le 15 janvier 2015, soit 5 jours seulement après les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Kacher à Paris. Mais il y a un lien, enfin un potentiel lien avec les attentats du 13 novembre.
Il y a un lien effectivement direct, puisque cet attentat déjoué de Verviers, qui est une petite ville industrielle de l'est de la Belgique, préfigurait totalement ce qui allait se passer 10 mois plus tard à Paris, le 13 novembre, et puis ensuite en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà le même coordinateur, le fameux Belge, figure de l'État islamique Abdelhamid Abaoud, qui, lui, déjà téléguidé cette opération par téléphone depuis 3 mois à Verviers. Il, lui, était vraisemblablement en Grèce puis en Turquie, même s'il prétend, ce qui est contesté par les autorités, s'être rendu en Belgique pour ensuite revenir en Syrie et déjouer un peu les systèmes de sécurité européens. En tout cas, on a le même coordinateur, on a le même mode opératoire, c'est-à-dire des gens qui reviennent de Syrie avec un soutien logistique, là encore en Belgique, toujours à Molenbeek, de gens qui viennent les chercher dans un pays tiers, qui les ramènent, des armements qui sont à peu près les mêmes, Kalachnikov. Il y a aussi le fameux TATP qui était en cours de constitution, tous les ingrédients étaient prêts. Donc ça préfigurait vraiment, mais à l'époque évidemment, on ne le savait pas, ça préfigurait ce qui allait se passer 10 mois plus tard à Paris.
Est-ce qu'on peut revenir justement au démantèlement de cette cellule? Comment ça s'est passé? On parle d'un assaut le 15 janvier 2015, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le film des événements?
Lorsque cet assaut est donné, donc on est à peine une semaine après les attentats de Charlie Hebdo, les services de renseignement craignent des attaques en série qui suivraient Charlie Hebdo. Et là, depuis un mois, ces gens sont écoutés par les services de renseignement belges. L'appartement a été, comme on dit, sonorisé avec des micros à l'intérieur, etc. Et les policiers ont la conviction que ces trois hommes qui se trouvent dans cet appartement vont passer de façon imminente à l'action, action terroriste. Alors ils pensent que ce qui était en préparation, c'était donc au minimum peut-être une attaque de commissariat. Ils savent pas très bien en fait. Il y a aussi été évoqué à un moment la possibilité que des membres des forces de l'ordre soient kidnappés pour être ensuite décapités sur le sol belge et que une vidéo soit ensuite diffusée. Bon, la police ne sait pas très bien, mais tous ces projets étaient envisagés. Et puis cette attaque, tout ça en fait a été confirmé par Abdelhamid Abaoud lui-même dans le magazine de l'État islamique d'Abik, puisque il a réussi à échapper aux services de sécurité, à retourner en Syrie alors qu'il avait quitté la Syrie pour téléguider tout ça par téléphone ensuite pour donner cette interview dans le magazine de l'EI de Syrie. Et donc le 15 janvier, les services de sécurité avec l'aide du GIGN français passent à l'action et ils sont reçus par des tirs de Kalachnikov et donc deux occupants de la maison qui revenaient de Syrie sont tués. L'un d'entre eux parvient à s'échapper, il est vite rattrapé et il comparaît actuellement.
Alors justement, Karim, notre auditeur de Ouagadougou, a une question à poser à propos de ce survivant, donc de cet assaut. Karim, on vous écoute.
Oui, Marwan El Balid, seul survivant à la barre, était-il le cerveau de la cellule Verviers?
David, alors ce survivant de cet assaut.
Alors évidemment, lui aujourd'hui dans le box, il cherche à minimiser son rôle. Il reconnaît tout de même en fait avoir eu un rôle qui peut s'assimiler à celui de Salah Abdeslam, c'est-à-dire quelqu'un qui se rend en Allemagne à Aix-la-Chapelle pour aller réceptionner deux individus qui rentrent de Syrie, quelqu'un qui cherche des moyens pour confectionner des faux papiers pour ceux qui reviennent de Syrie. Également, il est question d'un achat de produits chimiques dans un magasin Castorama qui aurait pu servir à la confection de cet explosif, le TATP. Voilà, c'est un logisticien, c'est ce qui est en train de ressortir du procès, présumé évidemment, puisque le procès n'est pas terminé. Et donc c'est un rôle qui semblerait s'assimiler à celui de Salah Abdeslam.
Alors il y a 6 personnes qui comparaissent donc devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, mais il y a aussi des membres présumés de cette cellule qui sont en fuite.
Oui, effectivement, sur les 16 personnes qui comparaissent dans ce procès, 9 sont absentes et ces personnes sont soupçonnées d'être actuellement actives au sein de l'État islamique en Syrie ou en Irak.
Alors vous parliez quand même d'un lien donc avec les attentats du 13 novembre. Est-ce que ça va être une question, ce lien-là, qui sera au cœur de ces 3 semaines de procès? Quels seront finalement les enjeux de ce procès-là?
Oui, évidemment, c'est un procès qui aurait pu passer quasiment inaperçu si il n'y avait pas cette ombre du 13 novembre qui planait sur les audiences, et évidemment l'ombre d'Abdelhamid Abaoud, qui lui est le vrai coordinateur là aussi de cet attentat déjoué, de cette attaque, puisque c'est lui qui donne les ordres de Grèce, de Turquie, par téléphone tous les jours en appelant les membres de cette cellule terroriste. Et donc effectivement, là c'est un procès qui prend une dimension tout autre, évidemment après les attentats du 13 novembre.
Alors ça veut dire que Abaoud finalement coordonnait de loin, enfin à distance, plusieurs cellules pour des projets différents.
Abaoud était effectivement, les écoutes sont retranscrites, elles sont décryptées, elles sont analysées, elles sont utilisées dans ces audiences du procès Verviers. Effectivement, de Turquie, puis de Grèce, il téléphonait avec plusieurs téléphones, plusieurs cartes SIM tous les jours aux individus, enfin en tout cas à certains protagonistes principaux de cette cellule. Et donc il donnait des ordres de Turquie et il disait ce qu'il fallait acheter, qui fallait chercher dans tel pays, etc., qu'il fallait ramener en Belgique. Donc c'était déjà le coordinateur, exactement comme ce qui s'est passé ensuite pour les attentats du 13 novembre.
On rappelle que Abaoud, lui, est mort donc dans l'assaut d'un appartement à Saint-Denis, juste après les attentats du 13 novembre. Une dernière question, le lien entre cette cellule et le groupe État islamique?
Ah bah le lien est direct, puisque après la mort des deux individus qui étaient dans l'appartement, qui sont tués par les forces de l'ordre belges et françaises, leurs photos et leurs testaments sont diffusés par le magazine Dabiq, officiel de l'État islamique, donc le lien est organique, il a été reconnu officiellement par le groupe État islamique.
Merci beaucoup David Thompson d'avoir été avec nous en studio pour répondre aux questions de notre auditeur de Ouagadougou, Karim. Une nouvelle question, un nouvel auditeur, c'est Sébastien qui nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions sur le football, Sébastien?
Absolument. J'ai appris que la FIFA a suspendu l'équipe du football du Bénin. Quels sont les motifs de cette exclusion? Le Bénin pourrait-il toujours participer à la CAN 2017?
Philippe Zigraf nous a rejoint en studio, journaliste au service des sports de RFI. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors c'est effectivement le 10 mai hein, que la sanction est tombée. La FEBFOOT, la Fédération Béninoise de Football, est suspendue de l'instance internationale, ce qui veut dire que toutes les équipes nationales et les clubs donc du Bénin ne pourront pas participer à des matchs internationaux. Donc on va voir avec vous un peu les raisons et les conséquences hein, de cette suspension. Mais d'abord les motifs de cette exclusion, Philippe.
Eh bien tout simplement l'annulation des élections à la présidence de la Fédération béninoise de football, élection qui devait se tenir le 4 mai dernier à la demande de la FIFA, de la Fédération internationale. Alors il faut savoir que ce congrès électif devait d'abord avoir lieu le 4 avril, mais à la requête de 8 clubs de première et de deuxième division du championnat béninois, eh bien le tribunal de Porto Novo avait ordonné début avril, hein, donc avant ce congrès électif, la suspension de l'élection. La FIFA avait alors pris acte et demandé qu'une solution soit trouvée, et elle demandait le report de cette élection d'un mois, donc elle devait avoir lieu le 4 mai, nous l'avons dit, rien ne s'est débloqué. Alors la FIFA a tout simplement appliqué son règlement en cas d'ingérence politique ou comme c'est le cas aujourd'hui au Bénin, ingérence de la justice, eh bien, la fédération du pays concerné est aussitôt suspendue. Et selon les statuts de la FIFA, les fédérations, les associations nationales, comme pour employer un terme de la FIFA, eh bien, ces fédérations doivent gérer leurs affaires de façon tout à fait indépendante.
Alors, quelques éclaircissements maintenant sur cette crise hein, qui dure depuis 5 ans.
Oui, et qui explique parfaitement la situation actuelle, puisque plusieurs camps s'opposent. On n'est pas d'accord sur les textes, mais surtout sur l'utilisation, sur la gestion de l'argent, notamment les fonds venant de la FIFA, puisqu'on le sait que la Fédération internationale aide au développement du football en donnant de l'argent, en construisant des terrains, des sièges de fédération, et ce dans tous les pays du monde, notamment ceux qui ont peu de moyens. Alors, c'est une histoire sans fin, cette crise au Bénin, avec de très nombreux rebondissements. Elle a commencé hein, en décembre 2010. Il y a eu, alors, pêle-mêle, on va pas revenir dans le détail, l'arrêt du championnat de football, l'incarcération du président de la fédération, alors, qui s'appelait Enjolras Moucharaf, et à qui l'on reprochait une gestion opaque de l'argent, notamment des sponsors, le ministre des Sports, donc l'État, qui s'en est mêlé en retirant son agrément à la fédération pour mauvaise gestion, puis des batailles juridiques entre différents camps, le camp Moucharaf, on l'a dit, et Victorien Atolou, qui a été un temps à la tête de la fédération, tout comme Augustin Aouan ou Vuebla, il a été aussi président de la fédération, bref, les uns et les autres se rejettent depuis des années la responsabilité de cette crise. Une crise, on l'a vu, qui énerve profondément la FIFA.
Alors depuis septembre 2015, c'est un comité de normalisation du coup mis en place hein, par la FIFA qui gère le football béninois. Bon, on va revenir à la deuxième question de notre auditeur sur les conséquences pour l'équipe du Bénin. Est-ce qu'elle va pouvoir participer donc oui, une équipe hein, qui est engagée dans les éliminatoires de la CAN 2017, est-ce qu'elle va pouvoir continuer son bonhomme de chemin?
Bonne question. C'est catastrophique pour le football béninois. Alors, vous le disiez tout à l'heure, aucune sélection béninoise, que ce soit sélection nationale de jeunes, seniors ou de clubs, ne peut jouer de matchs internationaux. Donc, pour l'heure, le Bénin ne pourra disputer son match face à la Guinée équatoriale dans un petit peu plus de 2 semaines à Cotonou, en éliminatoire de la CAN. Ce serait très dur parce que le Bénin est deuxième du groupe avec 8 points, 2 points de retard sur le Mali. Si le Bénin venait à passer en tête la dernière journée ou en septembre, ce serait un Mali-Bénin à Bamako. Donc, on espère évidemment, puisque les joueurs, pour l'instant, et l'encadrement technique sont pris en otage. On espère que tout ça va se débloquer.
Et en quelques mots, justement, est-ce que tout pourrait rentrer dans l'ordre rapidement?
Alors oui, par exemple, si le tribunal de Porto Novo rend une nouvelle ordonnance qui infirme la première, ce qui permettrait à la FIFA de fixer une prochaine date pour les élections, il faudrait de nouveaux éléments. Et puis, que les 8 clubs, par exemple, qui ont saisi la justice fassent machine arrière ou bien qu'une nouvelle requête soit déposée par la partie adverse. Le délai semble un petit peu court d'ici au 5 juin, jour du match, on le rappelle, Bénin contre Guinée équatoriale. Mais tout est possible.
Merci Philippe Zigraf. Notre débat juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.